Chapitre 4. La défense. Dans le cadre du débat contradictoire, les stratégies de défense vont nous permettre de contrecarrer les arguments et les attaques de notre interlocuteur. Plus celui-ci sera talentueux, et plus il nous faudra être capable d'ériger un système de protection vigoureux. 1. Dévoiler les armes de l'adversaire. Commençons par rappeler ce paradoxe fondamental de la rhétorique. Plus un procédé est visible, et moins il est efficace. Il en découle l'une des principales stratégies de défense que nous avons déjà croisées plusieurs fois. Dès lors qu'un procédé est dévoilé, il se vide en grande partie de son efficacité. Il s'évante, paraît n'être qu'un simple stratagème. Son utilisateur passe pour un rhéteur artificieux, voire pire, un sophiste pernicieux. Lorsque nous sommes ciblés par une attaque de l'adversaire, nous aurons donc toujours cette possibilité, nommer la stratégie qu'il vient d'utiliser pour en dénoncer la perfidie. La manœuvre est-elle efficace? Oui, dans une certaine mesure. Nous atténuerons l'attaque, mais nous ne la dissiperons pas totalement. Si le coup était puissant, notre position serait tout de même affaiblie. En outre, cette ligne de défense tend à manquer cruellement de mordant. Nous échapperons au pire, certes, mais en donnant l'impression d'ergoter, de chicaner. Si nous n'y prenons pas garde, c'est notre image qui pourrait en ressortir abîmée. Étude de cas. Ouvrier et syndicaliste, j'explique à quelques collègues qu'avec le rachat de l'usine, nous craignons un plan de licenciement et qu'il faut d'ores et déjà se préparer à faire front. M'entendant parler, un autre camarade se joint à la conversation. Il est manifestement opposé à l'idée d'une grève et ne se prive pas de me le faire savoir vertement. « Dis donc, monsieur 6%, tu sais ce qu'elles valent, tes analyses ? C'est pas en arrêtant de travailler qu'on sauvera nos emplois. » La critique est méchante. Les dernières élections syndicales ont été, en effet, une défaite cuisante. Je sais que je dois répondre au plus vite. Mais, hélas, rien ne vient. Faute de mieux, je me résous à dénoncer la manœuvre. Bravo pour cette attaque personnelle, pleine d'élégance et de nuances. J'aurais préféré que tu sois capable de me donner des arguments plutôt que d'éructer. Ce n'est qu'en rentrant chez moi, quelques heures plus tard, qu'un trait m'apparaît. Il aurait suffi d'utiliser un renversement argumentatif. Je te remercie, cher ami, de reconnaître que j'ai eu le courage d'affronter le suffrage de mes camarades, contrairement à d'autres. Toi, par exemple, je remarque que l'on t'entend davantage parler qu'on ne te voit agir. Décryptage. Lorsque cela est possible, il vaut toujours mieux préférer la répartie au dévoilement. Battre l'adversaire sur le terrain qu'il a choisi, prouver qu'à ce jeu-là, nous sommes meilleurs que lui. 2. Réfuter un argument par ses prémices. Au quotidien, nous l'avons vu, nous raisonnons davantage par antimème que par syllogisme. Cela signifie concrètement que nous avons tendance à laisser dans l'ombre une partie des prémices sur lesquelles reposent nos arguments. Il s'agit bien sûr d'un moyen de gagner du temps. Sans cela, nous en serions réduits à produire ce type d'énoncé. Nous n'avons plus de pain à la maison. Or, ce soir, nous avons prévu de manger une salade et nous aimons tous les deux saucer la vinaigrette. Par ailleurs, nous avons décidé de partager les tâches ménagères et hier, c'est moi qui suis descendu acheter une baguette. Donc, pourrais-tu aller chercher le pain ? Autant dire un enfer et un vilain coup porté à la rentabilité des boulangeries. Dans la discussion contradictoire, toutefois, les antimèmes peuvent se révéler plus que des raccourcis, des armes redoutables. Ils permettent de conférer à certains arguments l'apparence de raisonnements implacables, alors qu'ils reposent en réalité sur des fondements frelatés. Cela explique ce sentiment que nous avons parfois lorsque nous débattons, notre interlocuteur avance une conclusion dont nous savons qu'elle est contestable, voire fallacieuse, mais que nous ne parvenons pas à réfuter. Prenons l'habitude dans ces circonstances de remonter aux prémices. Nous découvrirons peut-être une faille béante qui n'avait simplement pas été exprimée. Étude de cas. Au cours d'un déjeuner avec des collègues, nous en venons à parler des dernières élections régionales qui ont enregistré un taux d'abstention record. Alors que je confesse n'être moi-même pas allé voter, l'un des convives se fait soudain véhément. « Eh bien, bravo ! Quel magnifique sens du civisme ! J'espère au moins que tu auras le bon goût de ne pas critiquer ensuite les décisions qui seront prises. » L'attaque est acerbe. Si je répondais sur le même ton, la situation ne manquerait pas de s'envenimer. Plutôt que de me ruer sur la conclusion de mon contradicteur, je décide donc d'explorer ses prémices. Admettons, mais peux-tu m'expliquer pourquoi, selon toi, il est si important de voter ? Bah, enfin, quelle question ! Mais parce que c'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir ! Ah non ! La définition d'un droit, c'est qu'on a le droit de ne pas l'exercer. Sinon, cela s'appelle un devoir. C'est l'un ou l'autre. Et en l'occurrence, le vote n'est pas un devoir. Et nos ancêtres, qui se sont battus pour pouvoir voter, tu en fais quoi ? Certes, mais nos ancêtres se sont également battus pour conquérir un empire colonial. Aurait-il fallu refuser la décolonisation au seul motif d'honorer leur mémoire ? Décryptage. Nos objections ne sont en rien définitives. Il existe des arguments pour soutenir l'obligation morale de se rendre aux urnes. À n'en point douter, le débat avec notre interlocuteur n'est pas près de s'achever. Mais au moins, en examinant les fondements de son assertion initiale, nous avons trouvé une prise pour en déconstruire l'apparente évidence. Nous pourrons désormais sereinement défendre le bien-fondé de notre point de vue. Prenons l'habitude donc de remonter aux prémices des arguments qui nous sont opposés. C'est seulement dans l'ombre, cachée, que nous découvrirons des ouvertures à exploiter. 3. Contredire le principe avant la pratique. Il arrive fréquemment, dans un débat, que nous nous retrouvions en situation de devoir objecter à une proposition. Nous ne cherchons pas à mettre en avant notre propre solution, mais plutôt à disqualifier celle défendue par notre adversaire. Pour ce faire, nous disposons de deux grandes lignes d'attaque, contredire le principe ou la pratique. Dans le premier cas, nous soutenons que cette position n'est pas souhaitable, qu'elle mènerait à des conséquences néfastes ou dangereuses. Dans le second, nous affirmons qu'elle n'est pas applicable, qu'elle supposerait des contraintes irréalistes ou démesurées. Pour savoir laquelle de ces deux stratégies nous allons adopter, il existe une règle simple que nous pouvons suivre dans la grande majorité des cas. Tant que cela est possible, tâchons de contredire le principe avant la pratique. Souvenons-nous en effet de cette règle tacite de la rhétorique : poser une question, c'est admettre que la question se pose. Dès lors que nous fustigeons une proposition au motif qu'elle ne serait pas réaliste, nous concédons implicitement que son inspiration, elle, pourrait bien être louable. Imaginons que nous engagions un débat avec un fervent défenseur de l'écriture inclusive, selon qui l'égalité entre les citoyens.ne.s commence par la langue. Si nous le pouvons, commençons par prétendre que l'idée même de modifier les conventions serait une aberration. Nous arguerons par exemple que la langue est une part intégrante de notre patrimoine culturel. En bouleverser l'écriture, c'est attenter à notre histoire. Ce n'est que si nous sommes mis en difficulté sur le plan des valeurs que nous nous retrancherons sur une discussion beaucoup plus concrète. Nous pourrons alors évoquer nos concitoyens dyslexiques qui seraient mis en difficulté et donc discriminés par l'utilisation d'un point au milieu des mots. Ayons conscience toutefois de ce que nous venons de reconnaître. L'écriture inclusive serait une proposition dangereuse en pratique, mais judicieuse en théorie. Quand bien même cette ligne de défense tiendrait, nous aurons malgré tout concédé un point fondamental. À l'inverse, lorsque nous sommes en situation de chercher à imposer une solution, essayons toujours d'amener le débat sur le terrain des modalités concrètes. Quelle que soit l'issue de la discussion, nous aurons ainsi fait progresser notre cause en commençant à instiller l'idée que son principe serait juste. Tout ce qu'il nous faut, c'est parvenir à reprendre la main alors que notre proposition vient de susciter un vif rejet. Nous pouvons à cette fin utiliser des formules telles que « Pourrait-on simplement prendre quelques minutes afin d'imaginer à quoi ce projet aurait pu éventuellement ressembler ?» Ou, plus fin, « D'accord, ça ne vous plaît pas ? Aucun problème. Comment fait-on pour améliorer l'idée ?» Formellement, nous donnons l'impression de faire de grosses concessions. En réalité, nous amenons le débat là où nous le voulions, à l'échelle de la pratique. Plus nos adversaires seront occupés à accuser notre proposition d'être inapplicable, et plus ils nous aideront à faire accepter qu'elle pourrait bien être souhaitable. 4. Gérer habilement les concessions. Dans toute bataille se pose la question des positions. Lorsque nous sommes trop exposés, il faut parfois se résoudre à abandonner du terrain pour mieux le reprendre par la suite. Du point de vue du débat contradictoire, cela signifie qu'il va nous falloir apprendre à gérer les concessions. D'une manière générale, nous ne devrions concéder à notre interlocuteur qu'avec grande réticence. À chaque fois que nous prononçons la phrase « D'accord, tu as raison », c'est un point que nous lui offrons. Les auditeurs se diront que, si nous nous laissons convertir aussi facilement, c'est que nous étions finalement peu convaincus, nous en paraîtrons d'autant moins convaincants. Évitons donc d'abandonner trop vite et trop visiblement nos positions. En affaiblissant notre éthos, nous fragilisons toute notre argumentation. Toute désagréable et dangereuse qu'elle soit, la concession n'en est pas moins un outil stratégique fondamental de la confrontation oratoire. Lorsque nous débattons, il arrive que nous soyons mis en difficulté. Nous avions pourtant soigneusement préparé la controverse, mais rien n'y a fait. Une information que nous n'avions pas intégrée, une objection que nous n'avions pas anticipée, et nous voilà soudain en infériorité. La pire décision, alors, serait de nous acharner. Tenter de tenir coûte que coûte notre argument, alors même que ses fondements ont été sapés. Nous perdrions un temps précieux à nous agiter dans des sables mouvants. Mieux vaut concéder discrètement et avancer aussitôt un nouvel argument. Nous aurons pris un vilain coup, il est vrai, mais au moins nous conservons une opportunité de reprendre l'ascendant. Étude de cas. Dans un débat, je soutiens qu'il est urgent de sortir de l'énergie nucléaire. J'avance un argument qui me paraît incontestable. Comment pouvez-vous parler d'indépendance énergétique alors que, pour faire fonctionner nos centrales, nous avons besoin d'uranium ? Nous sommes dépendants d'un combustible dont les stocks sont limités et que nous importons de l'étranger. Mon interlocuteur esquisse un sourire. Je découvre qu'il connaît mieux le dossier que moi. Alors, déjà, l'uranium n'a rien de particulièrement précieux. Il reste encore de grandes quantités inexploitées dans le monde, notamment en France. Ensuite, nous importons, oui. Encore faut-il regarder depuis quel pays. En l'occurrence, parmi les principaux producteurs d'uranium, on trouve le Canada et l'Australie, deux grandes démocraties. Vous préférez le pétrole du Moyen-Orient, le gaz de Russie ou peut-être les panneaux solaires de Chine? Je sens bien que de tels arguments ne sont pas inébranlables. Mais à mon grand dam, les connaissances me manquent. Si je reste sur ce terrain, je finirai laminé. À demi-mot, je me résous donc à concéder. Bon, peut-être. Encore que cela m'étonnerait qu'on ait assez d'uranium en France pour assurer notre indépendance. Puis, immédiatement, j'ouvre un nouveau front. Mais surtout, cela ne change rien au problème principal, le risque d'accident. Vous êtes prêt à accepter un Fukushima ou un Tchernobyl sur notre sol ? Décryptage. Remarquons ici la formulation de notre concession. Nous n'avons pas confessé platement notre ignorance, mais simplement admis l'existence d'un doute et changé de sujet. Bien sûr, personne n'est dupe, nous étions dominés. Mais, comme toujours en rhétorique, la manière compte autant que la matière. En conservant notre flegme et en repartant immédiatement à l'assaut, nous sommes parvenus à préserver largement notre image. C'était le principal, tant que notre éthos tient, la victoire demeure possible. Notons pour finir qu'il existe une différence fondamentale entre concéder et acquiescer. Quand bien même nous serions engagés dans un débat virulent, nous ne sommes pas pour autant contraints de nous opposer en tout le temps. Prenons toujours grand soin de délimiter l'ampleur du désaccord. N'hésitons pas, quand nous le pouvons, à gratifier notre interlocuteur d'un joyeux « Ah, mais vous avez tout à fait raison, là-dessus, nous nous rejoignons ». Nous nous assurons ainsi de ne pas le laisser revendiquer, pour lui seul, une nuance ou une observation que nous pourrions aussi partager, et nous évitons de tomber dans le piège du contre-pied systématique qui pourrait nous amener à nous enfermer dans une caricature de notre propre position. Nous en profitons en outre pour renvoyer une image ouverte, affable et non dogmatique, tout en ne cédant pas un pouce de terrain sur les désaccords cardinaux. Acquiescer quand nous le pouvons, contester quand nous le devons, concéder quand nous y sommes contraints. Telle est la marque des grands stratèges du débat.